Europe 1.
Colin Jones, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'université Queen Mary de Londres et vous publiez chez Fayard La chute de Robespierre, un travail d'historien tout à fait remarquable, j'ai presque envie de dire révolutionnaire, car pour nous raconter cette journée du 9 Thermidor, le 27 juillet 1794, qui fut un tournant majeur dans l'histoire de la Révolution française, mais qui reste assez confus, sujet à interrogation, vous choisissez de nous raconter la journée en temps réel, heure par heure, en suivant chacun des protagonistes dans Paris, de minuit à minuit, et soudain, tout devient clair, comme s'il s'agissait d'un puzzle que l'on voit pour la première fois reconstitué sous nos yeux. C'est
oui.
Comme ça que vous l'avez...
Oui, c'est bien ce que j'ai essayé de faire. Oui, c'est très bien que vous avez accepté tout ça.
Oui, je l'ai bien senti. Mais c'est vrai que la chute de Robespierre a quelque chose de mystérieux. La chute de Louis XVI, on y voit clair, celle de Napoléon aussi. Mais Robespierre, voilà quelqu'un qui règne depuis un an sur le comité de salut public et sur la Convention nationale, qui fait régner la terreur en voyant ses ennemis à l'échafaud les uns après les autres. Et soudain, en une seule journée, tout se retourne contre lui. Ceux qui le soutenaient encore la veille l'accusent de tous les maux. Et le lendemain, il est guillotiné. C'en est fini de Robespierre. Forcément, on pense à un complot.
Oui, c'est un complot, mais un complot qui est assez récent, qui date de depuis la veille, en fait. Parce que le 8 Thermidor, Robespierre est entré à la Convention. Il n'avait pas été à la Convention depuis 6 semaines. Et dans ce discours très long, où il s'attaque à presque tout le monde. Et à ce moment-là, tout le monde commence à avoir peur, il commence à agir. Et c'est intéressant, vous dites que c'est un mystère. Et pour la plupart des historiens, le vrai mystère, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Robespierre. Moi, j'ai voulu voir la journée qui est, comme vous dites, un tournant très majeur dans la Révolution, d'une autre façon, qui donnait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention aux Parisiens. Parce que pour moi, c'est une journée très parisienne. La plupart des historiens s'arrêtent avec le coup d'État parlementaire, presque,
comme si tout s'était passé à la Convention.
Mais vraiment, c'est presque le début, parce que dans l'après-midi et la soirée, il y a toute une mobilisation des sans-culottes, de la garde nationale, etc., à Paris, pour soutenir Robespierre.
Et c'est ce qu'on voit bien dans votre livre, quand on lit, c'est une ville qui, de plus en plus, est à bout de nerfs. Il doit faire chaud, en plus, on est à la fin du mois de juillet, et on voit bien que tout le monde est tendu, plus personne ne dort.
Oui, tout le monde, c'est vrai. Et beaucoup de gens disent que, finalement, la soirée, on voit dans la place de Grève, quelques milliers de gens qui sont les partisans de Robespierre. À minuit, presque personne. Et dit, bon, tous les sans-culottes sont rentrés chez eux. Mais pour moi, ils ne sont pas. J'ai trouvé dans les archives, c'est pas du tout le cas.
Non.
Ils sont retournés à leur section, mais beaucoup sont passés de l'autre côté. Ils ont changé de côté. Ils sont allés pour se joindre aux gardes nationales de la Convention.
Alors, l'élément déclencheur, on peut penser quand même que c'est la belle Teresa Cabarrus, une aristocrate qui est la maîtresse du député Tallien. Elle deviendra Madame Tallien, d'ailleurs. Mais pour l'instant, elle a 20 ans. Elle est en prison à Paris et elle s'attend d'un jour à l'autre à être guillotinée. Alors, elle écrit à Tallien, son amant, et elle lui dit « Si Robespierre n'existait plus, les prisons s'ouvriraient. Il faudrait un homme courageux. Quel dommage que vous soyez si lâche. » Et évidemment, piqué au vif et très amoureux d'elle, Tallien, qui a 27 ans, va être à l'origine de la chute de Robespierre.
Il a déclenché toute l'action. C'est vrai.
C'est ça.
Le soir avant, la veille, après le discours de Robespierre, il et quelques amis sont allés voir les députés modérés. Ils ont dit, bon, Robespierre, il a totalement perdu les pédales. on sait ce qu'il va faire demain. Il faut agir contre lui. Mais c'est un assez petit groupe. Et le comité de salut public ne faisait pas partie de ce complot.
Il faut se rappeler que le comité de salut public, c'est le gouvernement, en gros.
C'est le gouvernement.
L'exécutif et la Convention, c'est l'Assemblée.
Mais ce qui s'est passé, c'est très, très dramatique qu'il entre à la Convention juste au moment où Saint-Just, qui est l'allié très connu de Robespierre, commence un grand discours. Et il a crié fortement contre lui. Et il a dit, bon, vous êtes un comploteur, conjurateur, et Robespierre aussi. Et tout le monde était complètement... Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais ce petit groupe des partisans de Talleyrand, ils ont applaudi très fortement. Et tout le monde, soudain, prend conscience... que c'est possible
que Robespierre soit un tyran.
qu'il soit un tyran, qu'il soit être abattu. Vraiment.
Mais c'est extraordinaire de penser à Tallien, qui est un type sans grande envergure, ouais. Un aventurier, mais tout à coup fortement épris de cette très jolie femme, hein, il faut dire. Elle est magnifique, Teresa Carabarru. Il rentre dans la convention comme ça. Il interrompt Saint-Just. Ouais. Il traite Robespierre de tyran. C'est-à-dire qu'il faut un courage formidable à ce moment-là pour le faire. Mais hein.
Aussi, c'est la peur. Parce qu'il sait bien que Robespierre s'en va à son amante, mais aussi à lui aussi.
Oui, ils vont y passer tous les deux.
Il a des espions qui suivent Talia. Ils font des rapports pour Robespierre aussi. Donc, c'est la crainte. Mais c'est la crainte qui fait agir. La plupart des autres gens, ils ont craint. Mais il reste là, il garde la tête au-dessus de la barrière, pour ainsi dire.
Mais bon, ça ne suffira pas, comme on va le voir, on fait une pause, Colin Jones, on se retrouve tout de suite après, parce que la journée n'est pas finie. Hein.
9h, 10h,
c'est arrivé demain sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Colin Jones, qui vient d'écrire un livre absolument passionnant, « La chute de Robespierre », ça vient de paraître chez Fayard, 24 heures dans une journée révolutionnaire sur tous les plans. Colin Jones, Robespierre tout à coup est mis en accusation, il se décompose devant la Convention nationale, mais... pourquoi toute la Convention se rallie soudain à Tallien ? On l'a dit il y a quelques instants, c'est un aventurier, il n'a pas grand intérêt. Il est tout à coup à la fois poussé par la peur et poussé par l'amour qu'il a pour Teresa Carabarru, la future Madame Tallien, qui à ce moment-là moisit en prison et risque d'être guillotinée. Il interrompt Saint-Just, il traite Robespierre de tyran et tous les députés qui, la veille encore, enfin quelques mois avant, soutenaient Robespierre pour condamner Danton, par exemple. Tous se retournent contre Robespierre à cet instant-là.
Oui, c'est le moment où tout le monde prend conscience qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont, depuis des semaines, ils ne savaient pas ce qu'exactement voulait Robespierre. Ils s'absentaient de la convention, ils n'assistaient pas aux réunions du comité de salut public, donc le gouvernement. Mais presque deux fois, trois fois la semaine, ils allaient au club des Jacobins. Il et son allié, Routon, faisaient de grands discours contre qui s'attaquait le gouvernement. Le gouvernement dont il se faisait partie. Donc, il était devenu totalement incontrôlable, en fait. Donc, c'est pour cette raison qu'il voit une attaque contre Robespierre. Il pense, voilà, c'est le moment. Donc, c'est évident, il aurait dû conspirer contre nous. Nous avons l'opportunité maintenant, il faut agir.
Mais... Robespierre est mis en état d'arrestation, hein, ainsi que Saint-Just. Mais les jeux ne sont pas faits pour autant. Hein. On est au milieu de la journée à ce moment-là. Or, il a ses partisans. Hein. Il y a la Commune de Paris, à l'Hôtel de Ville. Il y a la Garde nationale. Il y a les sans-culottes, bien entendu. Il y a le Club des Jacobins, dont vous parliez. Il y a le peuple, enfin, sur lequel on pense qu'il a beaucoup d'influence.
Au début de la journée, on leur dit qu'il avait tous les atouts dans la main. Il est le maire, l'agent national, le commandant de la Garde nationale. C'était des hommes à lui. Il les a promus lui-même. Il est très populaire. Il a une célébrité énorme. Donc, tout le monde le craint. Donc, ça change totalement à ce moment vital, comme vous avez dit.
Les choses peuvent encore s'inverser. Il peut être sauvé, Robespierre.
Oui, c'est très dramatique, ces deux heures dans la convention où tout le monde se joint à s'attaquer à Robespierre. Et puis, finalement, ils font la décision de le mettre en prison, lui et ses alliés, quatre ou cinq types. Ils vont aux prisons, mais les geôliers, les concierges des prisons ne l'acceptent pas. Donc il est là, il est libre dans la ville.
En fait, il se retrouve libre.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis ses partisans À l'hôtel de ville, le maire, l'agent national, le commandant de la garde nationale, il commence à mobiliser les gens.
À sonner le tocsin.
Oui, oui, le tocsin. Ils envoient des messages. Venez à la place de grève. Et ils viennent en milliers, en fait, avec leurs canons. C'est une force armée très, très, très importante, en fait.
La guerre civile aurait très bien pu éclater là. Le peuple parisien joue un rôle capital. Vous l'avez dit, les historiens jusqu'à présent l'ont complètement négligé dans cette affaire. Oui. Et pourtant, c'est vraiment lui qui va décider de la partie.
Et c'est pour le peuple de Paris, c'est un moment de décision capitale. Parce qu'ils sont dans cette situation où ils entendent des nouvelles, des rumeurs qui viennent de la Convention. Et puis, il y a des ordres de mobilisation qui viennent de l'hôtel de
Vous
ville.
Vous dites d'ailleurs, les journaux jouent un rôle très important. Hein,
oui,
ce
c'est
jour-là.
Ça.
Les journaux,
le soir,
c'est la guerre de l'information.
Le journal du soir dit, bon, Roger a été arrêté. Bon, ça doit être important. Il aurait dû être conspirateur.
Il y a un moment que j'ai trouvé très émouvant dans ce livre, et il en fourmille, hein, puisqu'on suit tout le monde pendant 24 heures, mais il y a ces vendeurs de journaux qui viennent dire, qui viennent annoncer les grands titres du journal, Robespierre a été arrêté, ils viennent le faire devant les prisons, pour que les prisonniers entendent la nouvelle, et les gardiens essayent de les faire taire, et en même temps, pour les prisonniers, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'ils savent pas ce qu'il y aura après Robespierre, s'il a été arrêté. Peut-être qu'on va venir les massacrer.
Non, c'est vrai, c'est dans les prisons, il y a une crainte, parce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas aller dans la rue, évidemment, mais ils ont... Acoustiquement, c'est très important. Ils savent que quelque chose d'important se passe dans la ville.
Ouais. Et finalement, Robespierre et ses amis se retrouvent donc à l'hôtel de ville, puisque personne n'a voulu d'eux en prison. La commune a fait sonner le tocsin. On a d'un côté la Convention nationale et de l'autre la commune de Paris. Et qu'est-ce qui va faire qu'à la fin, à 2h du matin, c'est fini. Hein, Barras entre dans l'hôtel de ville avec ses troupes. Les insurgés sont mis hors d'état de nuire. Le lendemain, ils passeront tous à la guillotine. Robespierre en avant-dernier. Qu'est-ce qui a basculé d'un côté plutôt que de l'autre, à votre avis, Colin Jones, après avoir si longuement travaillé là-dessus?
Je pense que la plupart des Parisiens, finalement, ont fait une décision, comme j'ai dit, et font une décision, c'est un peu singulier, même remarquable, mais ils font la décision de soutenir la légalité. C'est une quasi-insurrection pour la Convention et pas pour la Convention. Et je pense qu'ils ne voulaient pas suivre Robespierre dans une aventure d'une sorte que personne ne comprenait.
Vous avez été très étonné par ce que vous avez découvert, parce que vous avez eu accès à des archives extraordinaires. Il se trouve qu'on a demandé, après on a fait une enquête pour savoir tout ce qui s'était passé ce jour-là. Vous les avez tous consultés, c'est ce qui vous a permis d'écrire ce livre.
Oui, c'est vrai. Parce que je pense que la plupart des historiens ont pensé que c'était inévitable ce qui s'est passé. Et moi, quand j'ai commencé à faire la recherche, je pensais ça aussi. Mais au fur et à mesure que j'ai fait des recherches, j'ai pris conscience du fait que vraiment, c'était quelque chose, un jeu qui finalement, c'est la Convention qui a vaincu de l'autre côté. Mais ce n'était pas prévisible.
Ce n'était pas joué.
C'était pas joué, comme on dit en français. Voilà.
La chute de Robespierre, c'est signé Colin Jones et ça vient de paraître chez Fayard. Merci d'être venu dans C'est arrivé demain. Merci. Pour nous en parler. Europe 1.